Donc, ça paraît difficile de parler après ces grands noms. Bref, je vais essayer de tout de même. Je vais y essayer. Tout d'abord, vous remercier. Je vous remercie d'être présent ce soir, de m'accueillir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais convoquer quelques poètes ce soir et j'aimerais au moins commencer par l'un d'entre eux, René Char, qui, René Char avait coutume de dire « Dans mon pays, on remercie ». Alors tous mes remerciements vont à l'équipe organisatrice, Jean, Gérard, qui m'ont accueilli, qui m'accueille ce soir, à vous tous, donc présents aussi ce soir. Pour aborder ce thème, on peut bien difficile. Vous avez vu, la littérature est extrêmement abondante et c'est toujours une gageure, évidemment, que d'essayer dans un laps de temps tout de même assez court d'aborder un thème. Alors, j'ai fait des choix, bien évidemment. Je vais vous proposer un certain nombre de pistes que j'espère suffisamment ouvertes ensuite au débat et pouvoir susciter justement des questions, des interrogations. Je tenais aussi, même si mon propos peut vous paraître quelque peu outrecuidant, mais saluer cette belle initiative qui est, à mes yeux, les jeudis en question, que je ne connaissais que par oui dire, j'ai jamais eu l'occasion de venir. Il faudra que je répare à l'avenir cette faute morale. Et lorsque je pense à cela, j'évoquais tout à l'heure au moment du repas, et nous avons très bien mangé ici même, et je tiens aussi à remercier donc, les autres, mais on évoquait à plusieurs reprises la philosophe Hannah Arendt et je crois qu'elle ne serait pas tout à fait opposée et loin s'en faut à de telles initiatives. Elle qui souhaitait que précisément le monde, comme elle le dit, devienne une scène pour la parole et l'action. Et poursuivait-elle, les sociétés. Les communautés gouvernées de manière despotique qui enferment les individus dans l'étroitesse de leur foyer interdisent précisément la création d'une vie politique véritable. Et je crois que de telles initiatives permettent justement de sortir de l'étroitesse de nos foyers, de nous rencontrer sans autre ambition justement que de pouvoir un moment, un petit moment, dialoguer entre nous. Alors je vais vous présenter quelques réflexions sur ce thème. À mon habitude, puisqu'il m'arrive tout de même d'être invité à de telles soirées, commencer par deux citations. Je vous ai donné, distribué deux documents, si je puis dire, un texte d'abord, j'aurais pu vous permettre de lire pour commencer, et puis ce tableau énigmatique de René Magritte, dont je vous présenterai une interprétation. Alors, deux citations pour commencer, une très longue, ce poème de Rilke, extrait du livre de la pauvreté et de la mort. On n'a pas souvent l'habitude d'entendre des poètes, alors je vais essayer de ne pas évidemment trop écorcher le texte. Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort, donne à chacun la mort née de sa propre vie, où il connut l'amour et la misère. Car nous ne sommes que l'écorce de la feuille. Mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. C'est pour elle que les jeunes filles s'épanouissent et que les enfants rêvent d'être des hommes, et que les adolescents font des femmes leurs confidentes d'une angoisse que personne d'autre n'accueille. C'est pour elle que toutes les choses subsistent éternellement, même si le temps a effacé le souvenir. Et quiconque dans sa vie s'efforce de créer, enclôt ce fruit d'un univers qui tour à tour le gèle et le réchauffe. Dans ce fruit peut entrer toute la chaleur des cœurs et l'éclat des pensées. Mais des anges sont venus comme une nuée d'oiseaux et tous les fruits étaient encore verts. Seigneur, nous sommes plus pauvres que les pauvres bêtes qui, même aveugles, achèvent leur propre mort. Oh, donne-nous la force et la science de lier notre vie en espalier et le printemps autour d'elle commencera de bonne heure. Et voici ce qu'écrit Arthur Adamoff, le dramaturge, précisément dans la préface qu'il consacre à sa traduction du poème de Rilke, du recueil, le livre de la pauvreté et de la mort. Voici, je vous le livre. À elle seule, cette citation suffirait peut-être même à ouvrir le débat. Voici ce qu'écrivait Adamov, donc, encore une fois, dans la préface à la traduction de ce texte de Rilke. Le grand mal de notre civilisation. Le grand mal de notre civilisation est moins un crime contre la vie qu'un crime contre la mort. De tout temps, certes, L'apparition de la mort fut terrible. Ne jette-t-elle pas l'homme face contre terre? Mais de cette très sainte crainte, de cette terreur des origines qui est génération, ceux d'aujourd'hui ont tout oublié. Et il ne subsiste plus qu'un malaise sans nom. Alors, petit détail technique, le problème d'imprimante qui m'a interdit d'imprimer la dernière version dont j'ai eu le brouillon, alors j'espère pouvoir me relire, mais je pense, j'espère aussi que ma voix m'emportera suffisamment, parce que j'ai un petit chat dans la gorge là depuis quelques temps. L'homme avance dans sa vie comme on avance dans le brouillard. Quoi qu'il fasse, le brouillard est son lot. Brouillard et non pas obscurité, précise toutefois Milan Kundera dans ses testaments trahis. Dans le brouillard subsiste une marge de manœuvre. On voit à quelques mètres devant soi, on distingue les traits de ceux qui nous accompagnent. On peut à loisir se délecter de la beauté des arbres qui jalonnent le chemin. Ce n'est pas l'obscurité. La nuit noire du monde ne s'est pas encore abattue sur nous. On est libre, libre et agissant. Et cette liberté, souligne encore Kundera, ne va pas au-delà de 50 mètres. Au-delà s'étend l'obscurité. L'omniscience, la théologie nous l'enseigne, est réservée à la seule divinité. L'homme, quant à lui, est frappé de myopie et condamné à tâtonner, ignorant où c'est pas le même. Qui oserait affirmer marcher toujours d'un pas ferme et assuré sur la route de la vie? Le futur ne nous offre-t-il donc aucune certitude? Se demande Ferdinand Alquier dans Le désir d'éternité. Et si l'homme, avide de découvrir une certitude, recherche ce que le futur lui promet assurément, il trouve en lui la connaissance de sa mort. Le futur contient notre fin. Chaque minute du temps nous conduit vers elle. Nous savons que le temps à venir aura raison de nous. Le temps nous dévore, comme le cruel titan Cronos dévorait les enfants que son épouse Rhea mettait au monde. La mort est donc, en ce bas monde, la seule chose dont nous pouvons être absolument sûrs. N'y a-t-il qu'elle de vrai, se demande Ivan Illich, le héros du roman éponyme de Tolstoï, au moment de mourir précisément. N'y a-t-il qu'elle de vrai? Il est vrai, chacun d'entre nous mourra. Chacun sait qu'un moment doit survenir pour lui où il n'y aura plus ni présent ni avenir. C'est dire qu'on ne peut ranger la mort parmi les accidents de la vie. La mort est bien plutôt l'événement par excellence, le seul, l'unique événement au regard duquel tout ce qui nous arrive au cours de notre existence est frappé du sceau de l'insignifiance. La mort est ce fruit au centre de tout dont parle Rilke, la grande mort que chacun porte en soi. Fidèle compagne qui jamais ne nous quitte, auprès de laquelle il nous faut vivre. Hôtesse inquiétante de toutes les fêtes de la vie, qui s'avance terrible aux tables de la joie, comme l'écrit le poète Novalis. En elle se joue la tragédie de l'existence. Par elle s'éprouve la fragilité de la vie humaine, son extrême ténuité. Ce savoir de la mort est sans conteste un savoir absolument certain, incomparable aux autres sortes de savoir. De sorte qu'il faudrait, comme le suggère la philosophe Françoise d'Astur, il nous faudrait accepter l'idée d'un argument thanatologique, thanatos la mort en grec, il nous faudrait accepter l'idée d'un argument thanatologique comparable à ce que fut en son temps l'argument ontologique par la vertu duquel l'existence de Dieu était, paraît-il, démontrée. Car nul ne peut douter de la mort. Nul ne peut douter de sa mort. Il n'est jamais arrivé, écrit Vladimir Jankélévitch dans son grand œuvre « La mort », il n'est jamais arrivé qu'un mortel ne meure point, échappe à la loi commune, accomplisse ce miracle de vivre toujours et de ne disparaître jamais. Mortel est ainsi le nom propre de l'homme, comme le dit Martin Heidegger. Elle est la vérité de la condition humaine, vérité nue, vérité crue. Pourtant, rien n'est davantage dans l'ordre des choses. Depuis qu'il y a des hommes, poursuit Jankélévitch, depuis qu'il y a des hommes et qu'ils meurent, comment le mortel n'est-il pas encore habitué à cet événement naturel? Pourquoi est-il Pourquoi est-on alors étonné chaque fois qu'un vivant disparaît ? Étonné comme si pareil événement arrivait pour la première fois. Pourquoi cet événement si normal éveille-t-il chez ceux qui en sont témoins autant de curiosité et d'horreur ? Parce que la mort est par excellence l'ordre extraordinaire, l'ordre qui subvertit tout ordre. La mort est à la fois la figure de la nécessité absolue, nous allons tous mourir, l'ordre implacable des choses, tout en étant en même temps la figure même de l'incompréhensible, littéralement extraordinaire. Rétive aux exigences les plus élémentaires de la raison, elle est foncièrement inclassable, extraordinaire. La mort est l'événement dépareillé par excellence, unique en son genre, monstruosité solitaire, sans rapport avec tous les autres événements qui tous s'inscrivent dans le temps. Elle est essentiellement, comme le dit encore Jean Tillevitch, scandale, l'inacceptable par essence. Parce qu'elle est aussi, et encore, la figure de l'imprévisible, dans la mesure où la certitude de mourir rencontre l'incertitude de son advenu. Ainsi est-elle à la fois proche, prochaine et lointaine. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni le lieu, dit l'évangéliste Matthieu. Comment pourrions-nous alors concevoir sereinement notre fin ? C'est pourquoi cette évidence de fait, évidence obvie et familière, nous paraît toujours aussi choquante, toujours aussi inquiétante. Inquiétante parce qu'à vrai dire, comme l'écrit Eugène Ionesco dans Le Roi se meurt, tout le monde est le premier à mourir. Le premier est le seul en vérité. Universel, on l'a dit, la mort est aussi unique. Personne ne me prendra ma place. Et jamais je ne mourrai à la façon d'un autre. Mais dira-t-on, la mort n'est pourtant qu'un phénomène biologique. Dans le monde animal et végétal, la mort se fond dans le mouvement pulsatile de la vie. Elle est la corruption avant la régénérescence. L'hiver avant le printemps, hein, qui voit renaître toute forme de vie. La condition de tout renouveau, de toute évolution. À cet égard, le roman de Saramago dont il a été question tout à l'heure est intéressant, puisqu'il imagine dans ce texte une société dans laquelle, une vie dans laquelle plus personne ne mourra. Rien de plus terrible de cette éventualité. Elle est la corruption avant la régénérescence, la condition de tout renouveau, de toute évolution, l'ordre dans la reproduction, offrant paradoxalement à tout individu une éternité dans sa descendance. La mort n'est donc qu'un moment du processus vital. Mais l'homme peut-il ne voir la mort que du seul point de vue de l'achèvement biologique ? Assurément pas. La mort est chez lui bien plus. Elle est ce savoir dont il ne peut se déprendre, qu'il habite au point justement de vouloir en finir pour précisément refuser de mourir. Estée Gaderman, dont on parlait tout à l'heure, hein, en est un vibrant témoignage. La mort est bien plus pour l'homme, elle est ce savoir dont il ne peut se déprendre, qu'il habite, qui le constitue en tant qu'homme. Blaise Pascal, en ses pensées, fait d'ailleurs de cette conscience de la finitude la caractéristique même de l'homme. C'est elle, dit-il, qui confère à l'homme toute sa grandeur, irréductible à tout le règne animal, en même temps qu'elle le fait misérable. Car, je cite Pascal, « car c'est être misérable que de se savoir misérable, mais c'est être grand que de se savoir misérable. Le se savoir et le se sentir mortel constituent le fondement de l'expérience que l'être humain a de lui-même. » Sans dénier à l'animal la faculté de ressentir, voire de pressentir sa fin prochaine, les comportements de certaines espèces sont à cet égard plus que troublants, et comme le dit Françoise d'Astur, il n'est pas si sûr que tout ce qui vit n'ait pas, sur un certain mode, inconnu de nous, une relation essentielle à sa propre fin. Donc sans dénier à l'animal cette faculté de ressentir la mort, reconnaissons que chez l'homme, la mort est l'objet d'une incessante rumination, l'objet d'une angoisse sans cesse renaissante. Cette fin qu'est la mort se présente dès qu'il y a pensé, écrit d'Astur, c'est-à-dire représentation, comme un thème privilégié pour celle-ci, à tel point que l'on peut soutenir que l'humanité n'accède à la conscience d'elle-même qu'à travers l'affrontement de la mort. C'est la raison pour laquelle on s'accorde volontiers à voir dans ce savoir un des caractères essentiels de l'humanité, à côté du langage, de la pensée et du rire. Aux origines du processus d'hominisation, on constate déjà que les premiers hommes offrent une sépulture à la mort. On en parlait tout à l'heure au cours du repas. Les découvertes archéologiques en témoignent. Les premiers hommes offrent une sépulture à leur mort. Alors que l'animal devant le cadavre de son congénère passe outre, l'homme, explique Françoise Astur, depuis les temps les plus reculés, enterre ses morts. La pratique des rites funéraires, plus encore que l'usage des outils ou le langage, marquerait ainsi l'avènement même de l'humain. La science, l'archéologie venant donner ici raison à Pascal. Les analyses développées par Edgar Morin, qui fut l'un des premiers parmi les anthropologues à s'intéresser au rapport que l'homme entretient avec la mort, en particulier dans son ouvrage, dont il a été question tout à l'heure, L'homme et la mort dans l'histoire, les analyses développées par Edgar Morin confirment le rôle majeur des rites funéraires dans l'émergence de la pensée humaine. On y apprend que déjà Néandertal se soucie des morts, les enterre et les rassemble, vit avec et parmi eux, et qu'il possède la conscience de sa propre finitude. Pour l'anthropologue, les pratiques de deuil font entrer l'humanité dans le règne de la culture, dans la mesure où elles témoignent chez l'homme du refus de se soumettre à l'ordre naturel, le refus de se soumettre à ce cycle de la vie et de la mort qui régit tous les vivants. Sans doute serait-ce trop se risquer que de prétendre que les rites funéraires constituent les fondements même de toute culture humaine. Au moins peuvent-ils être conçus comme autant de gestes par lesquels commence à s'articuler la pensée humaine. Mais, quoi qu'il en soit, la diversité des rites, leur présence dans toutes les cultures humaines, nous invite à reconnaître avec Edgar Morin que la vocation première de toute culture humaine est d'élaborer un sens commun autour de la mort. Toute culture peut être conçue donc comme culture de la mort, dans la mesure où elle s'efforce de surmonter cette césure radicale qu'est précisément la mort. Tous les édifices culturels, y compris ceux des sociétés réputées archaïques, trahissent une même préoccupation, donner un sens à ces deux impensables qui bornent l'existence humaine, le naître et le mourir. Toute culture est ainsi à la fois théâtre des origines et mise en scène de la mort. C'est ce dont témoigne, de manière tout à fait géniale, le tableau de Cézanne, la lunette d'approche.
Magritte.
C'est Magritte. Ah, de Magritte, pardon. Je n'ai pas suffisamment. C'est Magritte. Pourquoi Cézanne? Pourquoi ce lapsus? J'ai envie de vacances, la montagne Sainte-Victoire, mais enfin, c'est une figure de l'immortalité. C'est ce dont témoigne génialement, précisément, Magritte, dans la lunette d'approche. Je vous invite à regarder ce tableau. En 1963, René Magritte, le peintre surréaliste belge, compose la lunette d'approche. À l'instar d'autres œuvres du maître, vous connaissez quelques toiles de Magritte, le tableau surprend par la simplicité de son trait et son extrême dépouillement. Un unique motif sature l'espace de la toile, une fenêtre à demi ouverte. Le battant qui s'ouvre emporte avec lui le paysage, le ciel bleu, les nuages et découvre un fond noir, le néant. Dans la fabrique de l'homme occidental, le psychanalyste Pierre Legendre livre de l'œuvre le commentaire suivant. La lunette d'approche de Magritte, écrit Legendre, découvre ce qu'il y a derrière les emblèmes, les images, les miroirs, un vide, le gouffre, l'abîme de l'existence humaine. La lunette d'approche donne ainsi à voir que toute culture est semblable à cette fenêtre, à ce décor qui habille le néant. La civilisation est donc à comprendre comme une mise en scène qui se rapporte à l'abîme, afin de donner forme humaine au néant d'où nous procédons. Pour que, écrit encore le gendre, vive le Fils de l'homme. En Occident, comme partout, écrit le gendre, il s'agit toujours de sortir de la matrice et de se séparer de l'abîme indicible. À peine l'enfant a-t-il crié que l'on donne un sens à son cri, car le cri du nouveau-né est déjà une parole, enveloppé qu'il est dans les langes et les paroles de ceux qui l'aident à naître. Les mots, les signes, les rites religieux et politiques, les gestes, les musiques et les danses, les emblèmes, les architectures, les règles de toutes sortes, comme les rituels de naissance et de mort, tout ce qui fait l'étoffe d'une culture n'a d'autre finalité que d'humaniser l'âme en l'appelant naître et mourir. Pour devenir humain, le monde doit donc être inséré dans la trame du langage, car, poursuit le gendre, il faut des mots pour que s'élève la voix humaine. De sorte que, dit-il, en guise d'avertissement qui nous est adressé, de sorte que si la raison et le langage venaient à se désagréger, à coup sûr, la vie dans notre espèce périrait. Car la fabrique de l'homme est précaire, la fabrique des fils est fragile, comme est fragile le lien qui relie chacun à l'humanité, comme est fragile le lien de la parole. Toute culture humaine est donc, comme je disais tout à l'heure, théâtre des origines et de la cause qui perpétue la vie. Pour que la figure humaine émerge de l'abîme, trouve une raison de vivre avant de s'en retourner au néant. Par-delà leur diversité, les cultures humaines sont ainsi autant de savoirs sur l'abîme, non pas seulement savoir vivre, mais aussi et surtout savoir naître et savoir mourir. Les innombrables rites qui ponctuent l'existence humaine l'attestent. Rites de naissance, rites initiatiques et rites funéraires ont pour vocation première de guider, d'accompagner l'homme tout au long de son existence terrestre, jusqu'à son terme, la mort, l'autre nom de l'abîme. Telle est la vocation première des rites funéraires. S'il n'est pas permis à l'homme de surmonter l'obstacle de la mort, du moins peut-il parvenir à tempérer l'angoisse qui l'accompagne. Il ne peut le faire que par le truchement du langage et donc du symbole, en l'inscrivant dans un récit, en la revêtant des habits du rite. Le rite funéraire poursuit donc ainsi un double objectif. Il permet d'abord de prendre ses distances avec la réalité brute, avec ce que Freud nommera plus tard la dure réalité de la mort. Geste symbolique, bien sûr, car il n'est pas possible de s'opposer à l'irréversible qu'est la mort, mais comme l'explique Françoise Zastur, par la médiation du rite funéraire, la part limitée de vie qui est accordée à l'homme se voit transgressée. Par le lien spirituel qu'il instaure, le défunt demeure, d'une certaine manière, avec les vivants. Le rapport avec le défunt, brutalement interrompu par la mort, se trouve ainsi renoué. Disposer du cadavre, écrit à ce propos encore bien Françoise Zastur, disposer du cadavre afin de permettre le rétablissement d'un rapport virtuel avec le défunt, tel est le sens profond des rites funéraires. Le rite funéraire participe de ce que Françoise Zastur nomme l'esquive, étoffe de tout savoir humain sur la mort. Il faut en effet souligner ce fait, un signe, que la tendance de fond de la culture humaine est d'esquiver la mort afin de libérer l'homme de l'angoisse qu'elle suscite. Comme je disais tout à l'heure, toutes nos créations culturelles sont autant de tentatives pour déjouer, pour mettre en échec la mort. Toute philosophie, toute religion, dit Schopenhauer, constitue un contrepoids de la certitude de la mort. Tout s'emploie donc à la conjurer. Déjà, dans l'épopée babylonienne, Gilgamesh, après la mort de son ami Enkidu, se met en quête d'un remède qui lui permettrait d'échapper à la loi universelle de la mort. Les rites funéraires doivent-ils être seulement compris comme déni de la mort? Certes, il s'agit bien à travers le rite d'accéder à un nouveau mode de relation avec le défunt qui continue ainsi à exister dans l'au-delà. Mais le rite est aussi reconnaissance de la mort et pas simplement déni de la mort. Il s'agit bien de prendre acte de la disparition du défunt. Comme l'explique encore Françoise Latur, et vous aurez compris que cet auteur a été très largement ce qui a permis de nourrir ce petit exposé, mais comme l'explique Françoise Latur, le rite funéraire manifeste que l'être humain ne vit pas seulement en communauté avec ses contemporains, mais aussi, et peut-être même davantage, avec ceux qui l'ont précédé dans le temps. C'est cette communauté de vie, avec l'esprit des ancêtres, qui constitue le fond unitaire de toutes les cultures. Et c'est cette communauté de vie, avec l'esprit des ancêtres, des défunts, qui sert de base à la transmission de la culture, unique moyen de survie de la biculture. Quelle est la première vertu, la première vocation du rite funéraire ? Non pas dénier la mort, mais la reconnaître et l'inscrire dans la continuité même de la vie. L'autre vertu, et elle n'est pas moindre, et j'essaierai de mettre ça en relief avec précisément ce que nous vivons aujourd'hui, l'autre vertu du rite funéraire, en tout cas tel que nous pouvons le voir dans des modalités très différentes dans toutes les cultures humaines, l'autre vertu du rite funéraire est d'extraire la mort des situations simplement individuelles. La mort est d'abord une affaire collective dans ces, pour la plupart des cultures qui pratiquent de tels rites funéraires. La communauté, en même temps qu'elle affronte la mort, se ressource et réintègre ce que la mort avait précisément esselé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, vous vivez la martyre. Par la reprise des données immédiates du vécu dans un cadre institué, symbolique, eh bien, chacun peut traverser l'épreuve de la mort. Et il n'est pas enfermé précisément dans son individualité. Telle est d'ailleurs la vocation profonde de tout acte symbolique. Le symbole, symbolon, en grec, est ce qui permet de mettre ensemble, de joindre, de mettre en déroute ce qui sépare, ce qui divise, ce qui précisément se nomme le diabolus, le diabolique. Le haut Moyen-Âge et la Renaissance nous ont légué, chez nous, dans notre tradition en particulier, les artes moriendi, les arts de bien mourir, encore nommés guides des derniers instants. On y voit un homme au seuil de la mort, des anges viennent à son chevet pour l'accompagner dans ses derniers instants et l'amener ainsi au paradis. Que reste-t-il aujourd'hui de ces sagesses ancestrales ? Les anges sont déchus et ont déserté depuis le chevet des mourants. Nous autres, comme l'explique encore Pierre Legendre, nous autres modernes occidentaux, descendants de ces hautes traditions séculaires, enfants du livre et des livres, de guerres qui furent des holocaustes, promoteurs du bonheur industriel et technique, conquérants de sciences inouïes, nous autres occidentaux, n'avons-nous pas désappris la mort ? N'avons-nous pas perdu le sens de la mort ? Comme le remarque encore Françoise Latur, dans les sociétés industrialisées, c'est-à-dire aujourd'hui sur une partie toujours plus grande de la planète Terre, la mort est tombée dans l'oubli. Mort livrée à l'anonymat des grandes villes, cadavre putréfiant abandonné dans des appartements que plus personne ne semble voir, dépouille jetée à la fosse commune, victime de la canicule, que l'on entrepose dans des camions frigorifiques dévolus au transport de fruits et légumes, au milieu d'une fraîche industrielle rebaptisée pour l'occasion funénarium temporaire, corps orphelins que les familles ne réclameront pas de crainte d'avoir à s'acquitter des frais d'obsèques, ou encore vieillard moribond livré à la solitude d'une chambre d'hôpital qu'une lumière blafarde peine à éclairer. Comme l'écrit le professeur de médecine Jean-François Mattei, la mort a déserté nos foyers comme si, avant que d'être mort, les mourants n'étaient déjà plus des vivants. La mort a été rendue si insignifiante que les pratiques publiques de deuil, les rites funéraires dont je parlais tout à l'heure, ces pratiques publiques y semblent réduites à leur plus simple expression, rendues obsolètes par le mode de vie moderne, et en particulier sous l'effet de l'urbanisation croissante. On ne voit plus de processions, on ne pouvait encore les voir pas si longtemps. Ivan Illich, hein, le philosophe, et pas le héros hein, de Tolstoï. Ivan Illich, le philosophe, remarquait d'ailleurs, hein, au cours de son séjour, de son long séjour au Mexique, combien la communauté dont il s'occupait, enfin dont il s'occupait de l'éducation, avait été véritablement troublée par l'apparition précisément des nouvelles pratiques funéraires. Et avaient vécu précisément cette rupture avec leur tradition séculaire comme une véritable désappropriation. Mais on peut aussi se référer, cette fois, à Ivan Illich, le héros de Tolstoï, dans ce texte, La mort d'Ivan Illich, que j'ai relu la semaine dernière, et on voit dans les toutes premières phrases peut-être quelque chose qui commence à poindre, à savoir précisément le désintérêt pour une cérémonie funéraire, hein, c'est dans les premières pages du livre. Une cérémonie funéraire pardon, qui est réduite à sa plus simple expression. Alors que le savoir historique et anthropologique a permis de mesurer le rôle central que joue le rapport à la mort dans la constitution de l'humanité de l'homme, nous assistons dans les sociétés modernes à une démystification de la mort, à ce que précisément le philosophe allemand Hans-Georg Gadamer nomme le refoulement de la mort. Françoise Dastur note à cet égard que cette disparition de la représentation publique de la mort va de pair avec l'éloignement croissant du mourant par rapport à son milieu d'origine. On peut remarquer d'ailleurs, et je ne sais plus très bien où j'ai lu ça, mais je crois que c'est chez Ivan Illich, le philosophe, qui faisait remarquer la chose suivante, que l'individu aujourd'hui n'est plus directement confronté ni à la naissance ni à la mort. Le jeune enfant, j'en ai fait l'expérience il y a très longtemps, je viens d'être nouveau papa depuis peu, eh bien, l'enfant à la maison il voit arriver un nouveau-né, venu de nulle part, semble-t-il, un bon matin, au domicile familial, tout comme il peut voir un autre quitter la maison pour mourir à l'hôpital. Cette déritualisation de la mort renforce les fantasmes d'immortalité personnelle. Mais elle a pour effet surtout d'opérer une psychologisation du deuil. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'une des fonctions précisément du rite funéraire était d'extraire la mort d'une expérience simplement subjective, individuelle. Il semblerait que cette déritualisation à laquelle nous assistons renforce au contraire une psychologisation du deuil. Le deuil n'est désormais plus une manifestation de la communauté, dont on a dit qu'elle était essentielle pour maintenir le lien social et surmonter la mort. Le deuil est aujourd'hui conçu comme un travail psychologique. Il est exemplaire à cet égard de noter l'emploi inflationniste, qui, je dois dire, moi, personnellement, m'irrite beaucoup. Il est exemplaire à cet égard de noter l'emploi inflationniste de ces dernières décennies de l'expression « faire son deuil ». Chacun est désormais sommé de faire son deuil, ce qui veut dire en d'autres termes à le gérer le plus efficacement possible, comme s'il s'agissait de colmater sans tarder la brèche ouverte par la mort. Mais, c'est une question que pose Françoise Dastur, le deuil est-il un travail, une tâche à exécuter le plus rapidement possible, ou au contraire un processus qu'il s'agit de laisser faire en soi? C'est une question, je vous livre, surtout, c'est la question de Françoise Dastur que je vous livre. Tout se passe comme s'il s'agissait de gérer le deuil de la manière la moins visible possible, afin qu'il ne soit plus et pas une gêne pour l'environnement social. Alors que les rites funéraires anciens, centrés sur le mort lui-même et non sur les survivants, comme c'est maintenant le cas, hein, alors que les rites funéraires consistaient à faire une place aux morts dans la chaîne générationnelle, garantie de la survie même de la culture et du groupe, aujourd'hui il s'agit en quelque sorte de l'expulser de la mémoire en sommant l'endeuillé d'en faire son deuil le plus tôt possible. Sans doute, alors, est-ce bien à propos de notre époque qu'il conviendrait de parler de déni, d'escamotage de la mort? Michel Vauvel, dans La mort et l'Occident de 1300 à nos jours, a largement souligné le caractère irrépressible de ce mouvement de déréalisation de la mort, de ce mouvement de désappropriation. en retraçant l'histoire des représentations et des attitudes collectives qui ont entouré la mort depuis le Moyen-Âge, il insiste sur le processus historique qui aura conduit au XXe siècle à l'instauration d'un silence très particulier autour de la mort et du deuil. L'histoire nous montre en effet la dissolution graduelle, je disais, des rituels et des représentations traditionnelles autour de la mort en Occident. De familière au Moyen-Âge, rappelle l'historien Philippe Ariès, la mort va progressivement s'ensauvager. C'est l'expression qu'emploie Ariès. L'histoire témoigne en effet de l'effacement progressif du cercle de la collectivité au moment de la mort et du deuil, parallèlement à la montée de l'individualisme et du repli sur soi de la famille. L'érosion de la culture funéraire a pour conséquence de briser le lien de proximité qui s'établissait autrefois entre l'individu et la mort. À partir du XVe jusqu'au XIXe siècle, les ruptures qui vont marquer en profondeur l'histoire des attitudes face à la mort prépareront la mise en place d'une logique d'exclusion de la mort et des morts en Occident. Les causes de cet oubli, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir, les causes de cet oubli sont multiples. Recul du religieux, métamorphose du lien social, rupture de l'affiliation, mais aussi développement sans précédent des sciences et des techniques qui poussent l'homme à s'imaginer être en mesure de maîtriser l'ensemble du processus vital. L'idéologie transhumaniste, que l'on voit aujourd'hui se répandre, l'idéologie transhumaniste prétend aujourd'hui achever ce processus multiséculaire. En s'efforçant de réaliser dans un futur plus ou moins proche, par des moyens techniques, par le renforcement des capacités déjà existantes et le développement de nouvelles facultés, une modification aussi fondamentale de la condition humaine qu'elle aurait pour conséquence ultime l'effacement des infirmités, de la souffrance, du vieillissement et de la mort elle-même. Telle serait la mission de l'humanité, selon précisément les tenants de ce transhumanisme. Élaborer les moyens propres à permettre l'avènement d'une post-humanité supérieure. Dans cette perspective, le transhumanisme renvoie à la fois au statut de l'humanité comme simple état transitoire, notre humanité ne serait que transitoire, étape donc ou état à traverser, et renverrait aussi à la transcendance des nouveaux êtres par rapport à nous-mêmes, humains standards qui auront œuvré à leur advenir. Le transhumanisme n'est rien d'autre que la modalité contemporaine d'un sentiment, qu'on pourrait dire ancien, mais je pense qu'il marque plutôt une rupture par rapport précisément à tout de même à ce sentiment ancien, l'idée du caractère intermédiaire de l'être humain. La mort, l'expression la plus achevée, si on peut dire, de la finitude humaine, ne doit dès lors plus être conçue comme une condition à habiter, mais un état à dépasser par des procédés techniques. Cette aspiration au dépassement d'origine spirituelle, toutes les traditions culturelles, religieuses, hein, penser le dépassement de la mort hein, comme véritablement hein, un mouvement spirituel, eh bien cette aspiration au dépassement se confie désormais entièrement et exclusivement à des moyens matériels pour s'accomplir. Si la technique a déjà réalisé tant de prouesses, pourquoi ne finirait-elle pas par réaliser la prouesse des prouesses, changer celui-là même qui la met en œuvre? Si la technique ne nous a pas encore apporté le salut, c'est que nous n'en sommes restés jusqu'ici qu'aux préliminaires. Le véritable objet à transformer désormais, c'est l'être humain lui-même. Parce qu'il parvient par les prouesses de son savoir à maîtriser le début de la vie, à concevoir à volonté au fond d'une éprouvette, à s'assurer par le diagnostic prénatal ou préimplantatoire de la qualité de la vie à venir, à la choisir et en définitive à en décider, l'homme contemporain caresse l'espoir de dominer tout le cours de son existence jusqu'à son terme et ainsi en finir définitivement avec la mort. C'était le sens précisément du titre que j'avais voulu donner à cette époque. Excédé de n'être qu'une créature, selon l'éloquente formule de Victor Hugo, l'homme occidental poursuit le projet d'une maîtrise de l'ensemble des processus naturels dans le but de faire de la nature le canevas de l'homme, comme l'écrit encore le même Victor Hugo dans Les Travailleurs de la mer. Par le truchement, par le moyen de la science et de la technique, L'homme veut entreprendre l'infini afin d'approprier la création à l'humanité, afin de défier Dieu et la mort tel un nouveau Faust des temps technologiques. Comparé à un si sublime dessein, à un si sublime projet, la mort ne peut être que dédaignée. La vieillesse elle-même devient ce qui ne doit pas être. Dans cette perspective, la mort est perçue comme une limite intolérable qu'il faut à tout prix dépasser. L'ultime obstacle à franchir pour parfaire l'œuvre humaine. Aussi, notre éternelle ambition d'égaler Dieu nous fait-elle jeter sur la mort un regard empli d'impatience, de mépris et, si j'osais le mot, de morgue. L'homme traditionnel, nous dit le transhumanisme, est en voie de disparition. Que reste-t-il de l'homme, demande le philosophe Gilbert Autois. Que reste-t-il de l'homme dont on puisse assurer que cela échappe et échappera au possible constructeur et reconstructeur de la technoscience ? L'humanité n'apparaît plus que comme un donné à servir et à parfaire. L'humanité n'apparaît plus comme un donné à servir et à parfaire, mais comme une matière indéfiniment plastique. Cette disparition annoncée de l'homme, c'est ce que la science d'aujourd'hui nous annonce. Non comme une catastrophe, mais bel et bien comme une promesse eschatologique, qui pourra enfin conclure et clôturer l'histoire humaine. Déjà en 1999, l'essayiste et philosophe très controversé américain Francis Fukuyama écrivait dans la revue National Interest, je cite, pardon, « À l'avenir, la biologie sera capable d'accomplir ce que les anciens idéologues ont maladroitement tenté de réaliser, l'enfantement d'un nouveau genre humain. » Et ce nouvel homme, assurément, n'aura plus à craindre la mort. J'ai bientôt fini. De la mort perçue comme réalité inexorable, le monde occidental, avec le développement des sciences modernes, embrasse aujourd'hui l'utopie de ce que l'on pourrait nommer l'immortalité. L'apostrophe. Considérant la mort comme une donnée entrant dans le champ de contrôle du savoir scientifique. À travers sa volonté de maîtriser la mort et ses étapes, la science moderne jette ainsi les bases d'un idéal de survie indéfinie de l'homme sur Terre. On se pose la question de savoir si précisément ce sera un bien pour l'humanité. À la lumière des développements donc les plus récents de la science, ou en tout cas d'un certain temps de la science, on peut alors mieux mesurer toute la profondeur et la clairvoyance de la mise en garde d'Arthur Adamov que je citais tout à l'heure. Je la reprends. Le grand mal de notre civilisation est moins un crime contre la vie qu'un crime contre la mort. De tout temps, certes, l'apparition de la mort fut terrible, ne jette-t-elle pas l'homme face contre terre, mais de cette très sainte crainte, de cette terreur des origines qui est génération, ceux d'aujourd'hui ont tout oublié, et il ne subsiste plus qu'un malaise sans nom. Dans cette quête de ce qui permettrait d'échapper à la loi universelle de la mort, se lie peut-être l'incapacité de l'homme à affronter sa finitude. Peut-on concevoir un rapport à la mort qui soit autre qu'un rapport de déni, d'esquive ou de désappropriation ? Le philosophe Hans Jonas, quant à lui, nous invite à faire nôtre ce qu'il nomme, dans une formule éloquente et si belle, la grâce d'être mortel. La vie n'exige-t-elle pas, au contraire, de nous livrer sans réserve à l'épouvante que suscite la mort, afin de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec notre finitude. Si l'idée d'une maîtrise de la mort est dès le départ vouée à l'échec, sans doute le transhumanisme est lui-même voué à l'échec, la mort est l'échéance inéluctable. Et si l'idée, ne convient-il pas alors de l'assumer afin de faire de cette finitude non pas un manque, un défaut, mais une capacité, celle de sublimer l'existence ? Dans « Être et temps », Martin Heidegger définissait l'authenticité de l'existence humaine comme la capacité de comparaître devant la mort et de lui faire face. Plus modestement, la mort ne nous met-elle pas devant l'exigence éthique de construire notre vie afin, et comme le dit encore Françoise Dature, plus modestement, la mort ne nous met-elle pas devant l'exigence éthique de construire notre vie ? Car comme le dit Françoise Dature, n'est-ce pas de cette source nocturne que peut surgir la lumière de l'existence ? L'humanité, écrivait Auguste Comte, est composée de bien plus de morts que de vivants. Ne l'oublions pas. ne les oublions pas de peur de perdre ce don si précieux qui nous a été fait, celui de la vie. Et puisque j'ai débuté mon propos par les vers du poète Rilke, permettez-moi de le refermer par les paroles d'une autre grande figure de la poésie de la littérature, Gilbert Chesterton. Ces paroles sont extraites de son ouvrage « Le monde comme il ne va pas ». Je cite « Pour quelque étrange raison, pour quelque étrange raison, il faut toujours que l'homme aille planter son verger dans un cimetière. Ce n'est que parmi les morts que l'homme peut trouver la vie. » Merci.